Nous sommes encore en train de parler dans le livre de Jacques. Le mercredi, on continue toujours notre étude, à toutes les deux semaines. Puis nous sommes rendus au chapitre 3, les versets 17 et 18. C'est les deux derniers versets de ce chapitre-là. Puis on est encore dans le chapitre qui nous parle de la langue, notre manière d'agir quand on est en chrétien, mais aussi avec les gens de ce monde. Même s'il y a des fois, il y a des choses qui se passent dans notre vie qui nous porteraient, humainement parlant, à réagir charnellement, il faut apprendre qu'il y a quelque chose d'autre en nous, par le Saint-Esprit, qui vient d'en haut, qui veut prendre le contrôle et nous faire réagir de la bonne façon. C'est dans le Saint-Esprit. En réalité, tous les cadeaux de Dieu se retrouvent dans le Saint-Esprit. Toutes les dons spirituels, les fruits de l'esprit, les enseignements, les révélations, la puissance pour être un témoin, tout ça, c'est dans le Saint-Esprit. Quand tu te convertis au Seigneur, tu nais de nouveau, c'est-à-dire que tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, tu deviens une nouvelle créature, tu es né de l'Esprit, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu entre en toi, tu es devenu une nouvelle créature, puis là, toutes choses sont devenues nouvelles. Ta manière de parler aussi va changer. Ta manière de penser, premièrement, parce qu'il va renouveler ton intelligence. Ta manière de parler, ta manière d'agir, puis ta manière de réagir, parce que tu peux agir, mais tu peux réagir. Tout ça, Dieu veut changer ça pour qu'on soit comme Jésus.
Amen.
Amen. Il n'y a pas de plus bel exemple que lui. Il était le reflet du Père. Puis si on veut, parce que Dieu originalement avait créé Adam et Ève à l'image de Dieu,
amen.
Mais l'image de Dieu aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. On l'a perdu, nous, dans le temps, l'image de Dieu. Même si on ressemble à Dieu, parce qu'on peut penser, on peut parler, mais on est loin de ses pensées, loin de son parler, loin de sa sainteté. On est loin de sa sainteté, on est loin de tout. C'est pour ça qu'il faut absolument réaliser que tout vient du Saint-Esprit, puis on se connecte sur le Saint-Esprit, puis on demande tout ce qui vient d'en haut. Le titre du message dans Jacques 3, les versets 17 et 18, ça dit « La sagesse d'en haut se définit par une vie pleine de bons fruits. » On revient un peu sur un sujet qu'on a déjà parlé, parce que Jacques en a parlé sur plusieurs versets de la sagesse d'en haut. Pourquoi vous pensez qu'il en a parlé pas mal?
C'est important.
Parce que c'est important. Peut-être parce que ceux à qui ça s'adressait, ils n'avaient de besoin. Et je suis sûr qu'ils savaient, peut-être pas à 100%, mais ils doivent s'en douter, qu'à la fin des temps, les gens liraient ses écrits, puis ils réaliseraient qu'ils en ont besoin eux aussi.
Amen.
Oui, amen. On le sait qu'on a besoin, nous aussi, de la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est quelque chose d'important pour tous les enfants de Dieu, pas juste les ceux dans ce temps-là. Souvent, on lit la Bible, « Ah, ça, c'était pour dans ce temps-là. » La sagesse d'en haut, c'était pour eux autres, ça-là, on n'a pas besoin. Non, non. Tout ce qui était bon pour eux est encore bon pour nous aujourd'hui. Jacques, il met beaucoup l'accent sur une vie chrétienne manifestée dans la paix, il parle de la joie, de l'amour, il parle un peu de tout, mais surtout la paix. Puis vous allez voir les versets qu'on va voir où ce qu'on en est rendu. La présence de la sagesse d'en haut est très apparente dans la vie d'un croyant. Si la sagesse d'en haut prend place, sinon, on a vu la deux semaines que la sagesse humaine aussi, charnelle et diabolique, mais la sagesse d'en haut, dans Jacques 3, 17 et 18, il dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, ensuite modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est ça la sagesse d'en haut. Si le gars dit, j'ai la sagesse d'en haut, ça va se voir. Il va être pur dans ce qu'il dit, pacifique, modéré, conciliant, plein de miséricorde, plein de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Il va être un vrai. Ça sera pas un faux. La sagesse d'en haut va nous amener à être des vrais, authentiques. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Voyez-vous, ces deux petits versets-là qu'on vient de lire, il y a beaucoup de stock. Il pourrait y avoir six à sept prêches là-dedans. Mais là, on fait juste un survol rapide. La première chose qu'on remarque, comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'elle vient pas de notre nature charnelle, la sagesse d'en haut. C'est la sagesse d'en haut. Tu viens pas au monde avec ça. Tu la reçois quand tu reçois l'Esprit Saint. Mais si, quand on a reçu la vie de l'Esprit, on a mis ça dans un petit compartiment en arrière, tu dis, qu'un, j'irai te consulter quand j'aurai le temps. Là, tu continues à vivre ta vie comme tu étais avant. Puis tu réagis, tu penses comme tu étais avant, tu réagis comme tu étais avant, tu parles comme tu étais avant. Où est-ce qu'ils vont voir la sagesse d'en haut dans ta vie? Pour qu'ils voient la sagesse d'en haut dans ta vie, faut que tu laisses à la sagesse d'en haut prendre toute la place dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes agissements. Puis quand quelqu'un marche dans la sagesse d'en haut, ça paraît. Il y a des journées, peut-être, ça paraît moins. Mais là, dans ce temps-là, faut que tu demandes pardon au Seigneur. Ça arrive à tout le monde. Jésus, lui, ça y est pas arrivé. Il était 100% dans l'Esprit de Dieu à l'année longue. Pas nous. La sagesse d'en haut vient de l'Esprit Saint. Si tu marches dans l'Esprit Saint, tu vas être correct, tu vas marcher par l'Esprit. Sinon, tu peux retourner des fois, marcher selon ta chair, tu vas réagir selon ta chair. Jacques nous l'avait déjà enseigné, de la demander à Dieu, la sagesse. Faut que tu la demandes. Autant comme je disais tantôt, faut que tu prennes du temps à chaque jour. On prend du temps ici pour prier. Prenons du temps à chaque jour pour demander à Dieu des choses qu'on a besoin pour notre vie. Puis de demander la sagesse d'en haut, ça fait partie d'une des demandes qu'on doit faire au Seigneur. Si on veut être, comme qu'il nous dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Sommes-nous des artisans de paix, des gens qui recherchent la paix avec tout le monde qui nous entoure? Puis ça, on y arrive pas, mais il faut demander l'aide à Dieu. C'est dans sa sagesse d'en haut qu'on va être capable de vivre cela. Fait qu'il faut le demander tous les jours, autant qu'on peut demander de nous remplir de son Saint-Esprit, mais que sa sagesse nous soit donnée. Puis Dieu dit, il va nous le donner, tout simplement et sans reproche. Dieu veut que ça soit en nous. Il veut que ses disciples se démarquent de l'ensemble du monde. On est un sel dans ce monde, puis on est une lumière dans ce monde. Fait que il faut qu'il y ait de quoi qui sorte de nous, qui n'est pas naturel, qui n'est pas de ce monde. Ça vient d'ailleurs, c'est ce qui va sortir. Puis c'est quoi qui va sortir? Mais c'est l'effet du Saint-Esprit dans notre vie qui va faire transparaître la sagesse d'en haut. Les gens vont voir, il y a quelque chose de différent. Puis s'ils t'ont connu avant, puis ils te connaissent aujourd'hui, ils vont le voir, il y a une différence. Puis plus ça va aller, plus ça va être en montant si on reste dans l'Esprit Saint. Voyez-vous? Contrairement, comme qu'on a vu il y a deux semaines, la sagesse charnelle et diabolique nous fait vivre dans un zèle amer et un esprit de dispute. Quand tu es humain, tu marches dans l'humain, tu deviens agressif quand tu veux que les choses changent, puis tu le fais sentir que tu n'es pas content. Vrai ou faux? Je suis sûr que ça vous est tous arrivé de vouloir faire sentir que vous n'êtes pas content. Puis ça, c'est pas la douceur qu'on va ressentir. Là. C'est pas... c'est l'agressivité, l'amertume, la colère, esprit de dispute. Mais ça, c'est de la sagesse charnelle. On se pense bien correct. As-tu vu, moi, j'y ai dit, moi, là, que j'avais. Tu sais, on se pense correct parce qu'on y a dit. Mais peut-être aurait été mieux de rien dire puis de prier. Mais pour. Et voyez-vous, la sagesse charnelle, elle ne comprend pas les vraies affaires de Dieu. Contrairement aux ailes amères et à l'esprit de dispute qui vient de notre chair et du diable, la sagesse d'en haut nous amène à rechercher de bons rapports avec notre prochain, même envers nos ennemis. On ne leur souhaite pas de mal. On prie que Dieu les bénisse. Il peut les bénir un petit peu plus loin. Je lui dis que le Seigneur te bénisse un petit peu plus loin. C'est correct. T'es pas obligé de te tenir avec ton ennemi, là. T'es pas obligé de rester là puis te faire frapper. Mais tu veux la paix. Tu recherches la paix. T'es un instrument de paix. Fait que la sagesse d'en haut nous amène à rechercher de bons rapports avec notre prochain. C'est pour ça que Jacques dit, dans Jacques 3:17, le premier verset qu'on a lu, il dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliant, plein de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. » Cela est expliqué dans d'autres passages, ces mêmes idées-là, c'est expliqué en plusieurs passages, puis j'en ai parlé un peu tantôt, comme la première idée dans Galates 5:16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, puis vous accomplirez pas les désirs de la chair. Comment je vais arriver à me débarrasser de mon mauvais caractère? En marchant par le Saint-Esprit. Faut que tu marches dans l'autre caractère que tu as reçu. C'est dans le Saint-Esprit que tu l'as, l'autre. Fait que reste connecté, tu pries Dieu, tu demandes pardon pour qu'il n'y ait rien qui bloque ton accès puis ta connexion. Puis là, pendant que tu es rempli, Seigneur, apprends-moi à marcher dans ton Saint-Esprit.
Amen.
Là, tu vas vivre dans ta journée, puis tu vas réagir différemment. Peut-être tu vas avoir de la misère au début, ta vieille nature veut reprendre la surface. Alors, remets-toi tout de suite à demander pardon quand la vieille nature veut prendre la surface. Mande-y pardon, puis demande au Seigneur, « Seigneur, donne-moi encore de continuer à marcher dans la sagesse d'en haut. » Le Seigneur, il va te la donner, tout simplement, puis ça ne sera pas long que vous allez être changé. Le problème, si on ne change pas, c'est parce qu'on n'a pas cherché. On n'a pas recherché à l'être, parce que tout est déjà donné dans le Saint-Esprit. Nous voyons que la sagesse d'en haut, son fruit, est le résultat de quelqu'un qui recherche la paix. Si tu veux vivre le fruit de la sagesse d'en haut, il faut que tu sois déjà quelqu'un qui recherche la paix. Si tu cherches le trouble, tu la vivras pas. Il va sortir de l'agressivité, de la colère, de la dispute. Puis ça va être tout le temps du trouble partout où ce qu'on passe. Si on veut que ça change, faut se dire, à partir d'aujourd'hui, je veux vivre dans la paix. Puis rechercher la paix. La paix dans ma intérieure, ça tu l'as en étant en contact avec le Seigneur. Mais la paix avec ma femme, la paix avec mon mari, la paix avec mes enfants, la paix avec mon entourage, la paix à mon travail, la paix, tu veux la paix, même avec tes ennemis. C'est ça que ça disait dans Jacques 3:18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Fait que le fruit va sortir dans ta vie, le fruit de la justice va sortir dans ta vie quand tu vas rechercher la paix. Dieu, il cherche à ce qu'on ait une relation d'amour, de paix avec notre prochain. Il n'y a aucune place dans la Bible qui nous dit répéter des bêtises à celui qui nous dit des bêtises. Ou frapper celui qui vous frappe. Ou soyez agressif envers ceux qui vous agressent. Il n'y a pas aucun verset qui dit ça, là. C'est plutôt le contraire. Faut répondre avec la douceur, avec l'amour, avec puis prier pour eux, les bénir. On n'a pas à se battre avec personne, on n'a pas à chercher à avoir raison ou à chercher à avoir le dernier mot. Dans 1 Pierre 1, 22, ça nous dit « On a purifié nos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » On a-tu l'intention de s'aimer de tout notre cœur? Est-ce qu'on est prêt à mettre tout notre cœur pour s'aimer? Est-ce que ça, c'est une valeur pour nous de vouloir s'aimer puis de marcher dans l'amour? C'est important pour nous. Sommes-nous des gens qui recherchent la paix et l'amour entre frères et sœurs, puis même dans nos familles? Des fois, on doit avouer que non, parce qu'on ne l'a pas manifesté tout le temps. On force, mais des fois, peut-être qu'on n'a pas demandé à Dieu de nous aider puis que notre cœur en soit pleinement rempli, fait qu'il y a des moments qu'on n'a pas réagi dans l'amour. Mais on ne devrait pas réagir dans l'amour, on devrait agir dans l'amour. C'est des gestes qu'on décide de vivre. Puis ça, en le demandant à Dieu de nous équiper, de nous remplir, là, on va être capable de le faire. Puis la première place qu'on le vit, c'est dans nos foyers, ensuite dans l'Église, puis après ça, dans ce monde, les gens ont besoin de l'avoir. Jésus a dit à ceci, « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Ça se voit, tu es un disciple de Jésus, quand il voit que tu aimes les autres, puis les autres t'aiment, tout le monde marche dans l'amour, ils vont dire, « Il y a de quoi de spécial là. » En Romains 14, 19, ça nous dit « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Fait que, entre nous autres, il faut toujours, toujours garder la paix. Faut pas qu'il y en ait de chicane. Même entre Église, parce qu'on est le corps de Christ, c'est pas normal que des gens chrétiens là, soient en guerre, en chicane, en dispute avec d'autres chrétiens, même s'ils sont pas de la même église, c'est pas de Dieu. Même Dieu dit, pendant que tu offres ta prière, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ou tu te rappelles que tu as un problème contre ton frère, va te réconcilier. C'est ça que Dieu dit. Il veut pas que tu viennes y présenter des « Oh Seigneur, qu'on t'aime! » Puis là, t'en veux à l'autre, là. Là, tu es en chicane avec l'autre, puis tu as dit des bêtises. « Oh, Seigneur, que je t'aime! » Seigneur va dire, « Arrête de me dire ça, va te réconcilier en premier. » C'est ça qu'il va dire. C'est plus important pour Dieu qu'on garde la paix entre tous, entre chrétiens surtout.
Oui, il y a un verset qui dit aussi, « Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu n'as pas vu si tu n'es même pas la mort de donner tes craintes, tu vois? »
Oui. Mm-hmm. Fait que... On va frapper un nœud si le visage de Dieu, il ressemble comme deux gouttes d'eau à mon ennemi. Je vais frapper un nœud. Dans Romains 12, 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Parce que la paix, c'est important. Ça vient de la sagesse d'en haut. Tu veux être en paix avec tous les hommes, là, mais il faut que tu aies la sagesse d'en haut, tu peux pas t'en sortir. Pense, tu peux, il y a des gens que dans leur nature humaine qui sont déjà des gens de paix. Ils chicanent jamais avec personne, ça se peut. Mais moi je conseille quand même à cette personne-là de se connecter puis de vivre avec la paix qui vient de Dieu, parce que notre nature humaine est limitée. Disons que Dieu peut t'amener encore plus profond dans tout cela. Pour y arriver à garder la paix, il faut pardonner. Il faut pardonner. Si tu gardes des rancunes, t'es pas en paix. Tu peux pas penser que t'es en paix, puis que t'as la paix de Dieu, puis que t'as la bénédiction de Dieu, si t'as de la rancune contre quelqu'un. C'est pas la paix, c'est une fausse paix. C'est une paix charnelle. si tu sens de la paix puis tu es en guerre contre quelqu'un. Dieu dit, va te réconcilier. Pardonne. Et dans la prière du Notre Père, là, ça le dit, Père, pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu veux que Dieu te pardonne, mais il faut que tu pardonnes aussi aux autres, toi. Si tu n'as pas pardonné, attends-toi pas que Dieu va te pardonner. Parce que juste après la prière du Notre Père, Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Donc, la paix de Dieu vient une fois que tu as pardonné. Tu veux sa paix, mais sa sagesse va te dire, pardonne. Pardonne. Commence par pardonner, tu vois ça que la paix de Dieu va te remplir. Dans Éphésiens 4:32, il nous dit d'être bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Fait que ça, ça fait partie d'une vie d'harmonie. Quand le monde se pardonne, c'est-tu beau? Je sais pas si... Moi, je vous regarde des films, là, puis des fois, là, puis il y a du conflit. Quand tu vois, il y en a un qui se pardonne, puis les autres font toujours une petite musique avec ça, ouais. C'est touchant. C'est super beau. C'est beau. Si on arrive, nous, à trouver ça beau, mais Dieu trouve ça beau aussi. Puis il a créé la vie de cette façon-là pour qu'on apprenne aussi à se pardonner. Dieu trouve ça beau quand le monde se pardonne. Puis Dieu prend plaisir à pardonner aussi. Dieu prend plaisir, Dieu aime ça, pardonner aussi. Il est riche en miséricorde. Rappelons-nous les paroles de Jésus dans les Béatitudes. Dans Matthieu, chapitre 5, les versets 3 à 12. Écoutez bien les paroles, ça a le rapport avec la sagesse d'en haut, les Béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La première béatitude s'adresse aux pauvres en esprit. Il ne s'agit pas d'un état naturel, mais une disposition délibérément choisie. Quand tu dis pauvre en esprit, c'est pas parce que tu es un déficient intellectuel, ça n'a pas rapport. Le pauvre en esprit qu'il y a là, c'est quelqu'un qui décide de ne pas être un supérieur aux autres, puis qui décide de s'avouer qu'il n'est pas... qui est en dessous des autres. Il reconnaît que les autres sont plus hauts que lui. Ça ne veut pas dire que les autres le sont. C'est que lui a décidé de regarder les autres comme étant plus hauts que lui. Fait que lui, son attitude, c'est de s'abaisser dans le but que, après ça, vu que tu ne penses pas en supérieur, tu ne cherches pas à dominer, pas à contrôler, pas à écraser. Tu vas chercher à servir, pas à aider. Les pauvres en esprit sont ceux qui reconnaissent leur impuissance et qui dépendent de la toute-puissance de Dieu. Tu reconnais que tu n'es rien, puis tu décides, ah, c'est Dieu qui va le faire à travers moi. Ils ressentent leurs besoins spirituels et s'attendent au Seigneur pour le combler. C'est quelqu'un qui n'est pas autosuffisant et qui ne se pense pas capable de tout accomplir par lui-même. Après ça, il dit heureux les affligés, car ils seront consolés. Il dit heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Un débonnaire. En premier, je pensais qu'un débonnaire, c'était quelqu'un qui donnait tout ce qu'il avait. Mais je suis allé voir dans le mot grec, le mot débonnaire qu'il y a là. Le mot débonnaire veut dire plein de douceur, doux. Le fruit de la justice, ceux qui recherchent la paix. Ça veut dire que la sagesse d'en haut est pacifique. Là, il dit, heureux les pleins de douceur. Les pacifiques, c'est les personnes douces. Ceux qui recherchent à être en paix et qui sont doux. La douceur envers Dieu est cette disposition d'esprit par laquelle nous acceptons tout ce qu'il nous donne comme étant un bienfait, et ceci sans discussion ni résistance. Puis dans l'Ancien Testament, les doux, les débonnaires, étaient ceux qui remettaient entièrement à Dieu et non à leur propre force pour les défendre contre l'injustice. Ils étaient doux, puis ils cherchaient pas à se défendre eux-mêmes. Les ceux qui sont doux, c'est quelqu'un qui cherche pas à se défendre lui-même. Il décide de laisser Dieu venir agir pour régler les situations. Quand il y a un verset qui dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc, la personne qui a ça dans son esprit ne cherchera pas à établir sa justice et dire « Moi, je vais régler mon affaire. » Puis tu vois, ça, il va le savoir de quel bois je me chauffe. Ça, c'est l'humain qui est pas dans la douceur, qui cherche à régler les affaires par lui-même. Quelqu'un de doux, c'est quelqu'un qui va s'en remettre à Dieu. Ça veut pas dire qu'il n'avait pas un caractère. Tu peux en avoir un caractère, mais tu décides de que ce soit pas toi qui règle les affaires. Tu décides d'agir d'une manière paisible, douce, puis c'est pas toi qui le règle le problème. Tu laisses Dieu le faire. Là, ça, c'est un débonnaire. Puis il dit heureux les débonnaires, ils hériteront la terre. Ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Miséricordieux, c'est encore dans l'idée que tu es versé vers les autres, tu as de la pitié, tu as du pardon, tu veux les aider, tu veux prendre soin des autres. Tu penses pas à toi et tu penses à te donner pour les autres. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Tout à l'heure, ceux qui recherchaient la paix. Les gens pacifiques, ça geste d'en haut, c'est d'être pacifique. Mais Dieu heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Procurer la paix, là, c'est d'être un pacificateur. Être pacifique. Par tout ce que tu veux, t'établis la paix. T'aides des personnes à faire la paix, même. Toi, tu cherches pas le trouble, tu veux régler les choses paisiblement. Tu veux amener la paix par tout ce que tu penses. Puis tu vas dire aux autres de se calmer. Puis tu vas aider à la réconciliation. Mais un instrument de paix, t'es un artisan de paix, t'es un pacificateur. Puis ça vient encore de la sagesse d'en haut. Mais il faut en arriver à cela, frères et sœurs. Quand on prêche des sujets, c'est pas parce qu'on a atteint ces sujets-là. C'est pas parce qu'on est tous comme ça. Non, c'est parce que Jacques, quand il en a parlé, c'était pour lui dire comment ça devrait marcher dans la vie de tous les jours, entre les chrétiens, puis entre les gens du monde, entre nous et avec les gens du monde. Fait qu'il faut apprendre à marcher dans l'Église, dans la paix, puis faire la paix, puis de rechercher la paix pour être des instruments de paix, des ouvriers de paix. Pour arriver à vivre une vie selon les béatitudes, nous devons nous laisser remplir de la sagesse du Saint-Esprit. C'est la sagesse d'en haut. Comme le chant le dit, « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. » Seigneur, je te demande de nous remplir de ta sagesse d'en haut. Je te demande de nous révéler ces choses, mais aussi de les installer dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Que notre vie soit de rechercher la paix avec tous, puis de marcher dans la sagesse d'en haut. Remplis-nous de ton amour, de ta joie, de ta paix. Remplis-nous aussi de ce désir-là de l'exprimer, d'être des bâtisseurs, des pacificateurs. Merci de ce que tu vas faire dans nos vies, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.